Si seulement j'avais une machine à remonter le temps.
5 savants tartiens
sont égarés au cœur du temps dans le labyrinthe des époques passées et futures. Au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le
Schmurbloc.
Karma, Alice on the Road, Dr. JM,
Professeur Schmurz et l'Imperator.
Ils sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps.
La machine fonctionne de la façon suivante. Voici le siège où se tiendra le futur voyageur dans le temps. Juste en face de lui, il y a le levier qui contrôle le mouvement. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Plus forte est la pression, plus vite la machine se déplacera dans le temps.
Faites chauffer la pâte.
Treize ans s'étaient écoulés. 14, 15, 16 ans. Et puis soudain, la lumière s'éteignit. Qu'était-il arrivé ?
C'est l'heure de la pelle à tarte.
Nous sommes aujourd'hui le lendemain du 8 mars 2015, où cette année, la Journée internationale des femmes a pour thème, je cite, « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, imaginez !» Fin de citation. C'est l'ONU qui fixe le thème de cet événement, lequel ramène chaque année au cœur de la place publique les questions de la condition des femmes à travers le monde. Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, autonomisation, autonomisation, zone d'autonomie temporaire bien sûr. En entendant la semaine dernière le thème de la journée de la femme de cette année, j'ai un instant cru que l'ONU avait planté un drapeau pirate au milieu de Manhattan, parce qu'autonomisation, ça évoque plein de choses, pour qu'ils s'intéressent un peu aux projets alternatifs, à la décroissance ou encore à l'altermondialisme. L'autonomisation, c'est l'idée qu'il est important de se réapproprier les savoir-faire, les outils de production et en général tout ce qui fait notre vie. Autonomisation de l'humanité. Est-ce que l'ONU soutiendrait par ce message de tous les projets de villages autogérés, de squats et de projets alternatifs ? Enfin, on accompagnerait les projets pédagogiques originaux, les systèmes de partage et de troc, on favoriserait l'échange de savoir et l'entraide entre citoyens du monde ? Je suis donc allé voir les outils de communication fournis par l'ONU pour aider les journalistes à raconter aux 20h ce que c'est que cette journée de la femme ou des droits des femmes. J'évite d'échanter. Car si bien sûr le texte proposé rappelle la précarité de la condition des femmes dans le monde, ce texte affirme que le partenaire clé de la lutte pour les droits des femmes est le secteur privé. En moins de 500 mots, on trouve 12 occurrences du mot entreprise et un champ lexical bien trempé, intérêt commercial, marché, production, réaliser les meilleurs résultats. On retiendra donc que lutter pour le droit des femmes, c'est avant tout rendre les entreprises plus compétitives, ou pour résumer, les femmes sont utiles car elles rendent le libéralisme plus efficace. Beau projet et beau message d'espoir que l'on propose là aux citoyens du monde. Heureusement, à l'appel à tarte, on ne s'arrête pas à ça, ni même au fait qu'on ait perdu deux de nos membres féminines depuis moins d'un an. Et pour vous prouver qu'on n'est pas des machos et qu'on croit aux droits des femmes, nous serons toute cette émission vêtues de rose, comme à la marche contre le cancer du sein.
Mes amis, je vais partir faire un voyage dans le temps et je compte retrouver mon ancêtre Casimirus Ier.
C'est un plan de qualité.
L'appel à tarte.
Eh bien, bonsoir et bienvenue dans l'appel à tarte, l'autre seule émission radiophonique qui vous permet de vivre des voyages temporels par procuration. Bon, au départ, le but n'était pas vraiment celui-ci, puisque nous voulions fêter, avec 9 mois d'avance, les 20 ans de Radio Campus qui auront lieu en juin 2015. Seulement, nous nous sommes perdus dans les méandres du temps suite à une mauvaise manipulation. Il faut préciser que tout cela a lieu grâce aux inventions de notre génial professeur Schmurz, qui repousse sans cesse les limites du possible. Bonsoir professeur, vous levez les bras au ciel, bonsoir. Vous êtes fier de vous. Vous êtes donc l'inventeur des Schmurbloc, hein, ces machines qui nous permettent de voyager dans le temps, mais aussi dans l'espace. Hein. C'est important. Je précise d'ailleurs à ce sujet que vous avez créé en fait au départ deux machines à voyager dans le temps, deux Schmurbloc, comme nous les appelons, Un petit que nous avons perdu en cours de route et puis un grand, oui le vôtre tout à fait, avec lequel nous parcourons toujours le temps. Voilà. Donc avant de commencer cette émission, je crois qu'un petit rappel s'impose ainsi qu'un tour de table pour que nos auditeurs novices nous connaissent un peu mieux. Aux manettes, nous allons entendre le bonsoir profond et solennel de l'Imperator, amoureux fou des boutons en tout genre et auteur de la fameuse mauvaise manipulation. Bonsoir Imperator.
Bonsoir.
Oui. À côté de moi se trouve le docteur JM qui vient de nous faire ce magnifique édito féministe, érudit et passionné de beaux mots. Bonsoir docteur.
Bonsoir Alison. Pas que de beaux mots d'ailleurs.
Et c'est Alison The Road qui vous parle. Si c'est la première fois que vous écoutez l'émission, vous savez seulement de moi que je suis polie car je me présente en dernier. Nous sommes donc maintenant quatre tartiens. Quatre pelleux, quatre membres donc de la pelle à tarte. Au départ, nous étions six et nous formions une parité parfaite. Nous avons malheureusement perdu en route deux de nos compagnonnes. Alors pour une meilleure compréhension de la situation, je vais maintenant retracer par ordre d'émission et non pas chronologiquement ce qui s'est passé. Attention, il va falloir être bien attentif parce qu'on a vécu quand même pas mal d'aventures depuis le début de l'année. Alors lors de la première émission, Miss Liz a péri tragiquement au moment de l'atterrissage du grand Schmiroplock et en fait elle s'est fait écraser par le poids de la machine et elle n'a donc même pas pu entamer les voyages temporels avec nous. Accompagnés de ce deuil, nous avons continué notre chemin à quatre, Docteur JM, l'Imperator, Carmi et moi-même, car professeur, vous étiez en vadrouille avec votre petit Schmiroplock personnel. Donc pendant cela, nous avons parcouru la Renaissance, nous sommes allés en 1861 en Russie, puis en 333 à Myre. Et c'est lors de ce voyage que nous avons recroisé votre route, professeur, accompagné donc toujours de votre petit Schmiroplock.
Je vous ai rejoint avec mon petit Schmiroplock.
Alors on était vraiment heureux à ce moment-là, on était cinq, mais bon, ça n'a pas vraiment duré longtemps ce temps-là. Hein. Puisque c'est à ce moment-là que notre autre pelleuse, prénommée Carmi, dans un excès de méchanceté soudain et incompréhensible, a décidé de nous trahir. Et elle s'est enfuie à bord du petit Schmiroplock, nous laissant seuls avec le grand. Elle est partie loin, loin, au-delà de votre ligne temporelle actuelle. Et nous l'avons su à nos dépens. Le professeur a déclenché un aimant super puissant, dont je n'ai pas tous les secrets, hein, professeur, mais qui permet en tout cas de réunir nos deux Schmiroplocks. Seulement, nous, pauvres créatures, nous nous sommes lamentablement écrasés le 25 décembre 2014, là où était notre ligne temporelle qui suivait toujours son cours. Et c'est donc à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas aller dans le futur avec le grand Schmiroplock, mais seulement parcourir le passé. Vous suivez toujours ? Bon, comme nous étions de retour chez nous, nous avons quand même décidé de passer une journée dans nos familles respectives avant de repartir pour la pose de la première pierre de la muraille de Chine. Pourquoi cette date ? Tout simplement parce que le professeur du futur nous laisse de plus en plus d'indices sur notre chemin que nous nous évertuons à décrypter. Nous avons ensuite ramené à bord la première pierre de la muraille de Chine sans trop savoir pourquoi. Puis nous avons suivi un indice qui nous a mené en 1992 à la Cité des Étoiles en Russie. C'était notre dernière émission. Et à ce moment-là, nous avons découvert que c'est le professeur du futur lui-même qui a construit la station Mir, qui constitue en fait secrètement un satellite de propulsion pour le Schmiroplock afin qu'il aille dans le futur. Nous sommes donc partis en trombe et avons réussi à dépasser le présent grâce à la station Mir. Et nous émettons aujourd'hui cette émission en direct du 30e siècle, c'est pour ça qu'il y a eu des petits déboires en début d'émission, c'est pas forcément simple, de l'an 2997 pour être précis, après un mois passé sur une plateforme pétrolière. Alors durant cette émission, nous vous proposons des reportages, des témoignages, des chansons qui retracent nos péripéties sur cette plateforme un peu malsaine, où vit une société un peu étrange.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3. On vient de s'écouter un titre du groupe polonais Motion Trio, You Dance, proposé par le professeur Schmurz. Eh bien, il est temps maintenant, je vous le rappelle, on parle du 30e siècle, il est temps de découvrir un petit peu comment deux de nos binômes sont allés explorer l'endroit où on était arrivé. C'était les premiers à être sortis du Schmiroplock, et donc je passe tout de suite la voix à Allison et au professeur Schmurz.
Les voyages dans le temps sont-ils vraiment possibles?
Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée.
La pelle à tarte.
À notre arrivée fracassante sur la plateforme, il faisait nuit.
Nous en avons donc profité pour explorer les alentours afin de comprendre où nous avions atterri.
Car la nuit, au moins, on est sûr de ne pas trop se faire repérer.
Et surtout en circulant dans les conduits d'aération.
Et oui, comme Dr. JM et l'Imperator étaient hors service, nous avons dû nous dévouer pour passer à l'action.
En rampant.
En effet, un gros conduit en plexi débouchait aux abords du Schmiroplock.
Et nous l'avons emprunté sans aucune appréhension, car nous ne sommes pas de ceux qui ont été traumatisés lors de l'accouchement de leur génitrice.
Merci maman.
On se demande d'ailleurs toujours si l'Imperator ne faisait pas un peu semblant de dormir.
Vraisemblablement pour échapper à un séjour prolongé dans un si petit conduit.
À cause de sa maman.
Bref, on tourne en rond, allons droit au but.
Et c'est ce que nous avons fait en laissant Dr. JM qui lui plaçait en tas ses petits Lego verts en feignant un mal de ventre aigu. Avancez un peu plus vite, professeur, j'ai constamment vos pieds dans la tête, là, c'est désagréable.
C'est bien doublé, Allison, si vous trouvez que ça ne va pas assez vite.
Attendez, professeur, restez en bas, je crois que j'ai passé enfin quelque chose. On pourra peut-être en profiter pour descendre et changer de place.
Chut. Il me semble distinguer une silhouette. Je crois qu'il y a quelqu'un.
Vous avez raison, professeur, je ne l'avais pas remarqué. Il faut dire qu'elle est complètement recroquevillée. Vous pensez qu'elle a fait quoi?
Je crois qu'elle étudie quelque chose.
Vous croyez que c'est une bibliothèque?
Peut-être. Mais tous les rayonnages sont vides. Ah, je vois une table avec deux livres.
Si cette personne tient le troisième, professeur, cela veut dire que soit les autochtones sont très limités, soit ils sont très érudits et passent leur temps à emprunter tous les ouvrages.
Nous le saurons sans doute bien assez tôt.
Bon, continuons notre chemin maintenant. C'est très étroit, ces conduits.
Regardez, Allison. Encore une table avec trois livres.
Oh, mais voyez à gauche, il y en a une autre.
Il faudra mentionner l'existence de ces 9 livres au docteur et à l'Imperator.
Oui, peut-être trouveront-ils un moment plus propice pour se faufiler et découvrir ce qu'ils recèlent.
En attendant, il faut continuer nos recherches. Rampez, Allison, rampez.
Oh, je ne fais que ça, professeur. On est bientôt arrivés, là.
Mais Allison, on ne sait même pas où on va.
Mais tout de même, ça fait une heure qu'on y est.
Tant que nous n'avons pas compris à quelle race nous avons affaire, il faut persévérer.
D'accord, mais c'est toujours moi qui me retrouve dans des plans bizarres comme ça, là.
Vous dites ça, ma chère. Je tiens toutefois à vous signaler que j'ai passé 3 semaines dans une geôle et une nuit dans une caisse en Chine.
Oui, mais Moscou, Paris, Andrésienne, ça vous dit quelque chose, peut-être?
Cessez donc vos enfantillages, Allison. Et regardez plutôt où nous sommes arrivés. Ben là, sur notre droite, sur notre gauche, enfin, autour de nous.
Oui.
Nous sommes à l'école, Allison. Voyez tous ces pupitres alignés, ces chaises de gamins.
Oh, vous êtes sûr? Je veux bien vous croire, mais regardez ce tableau à chiffres. Il en manquait, il ne va que juste à 8. Ça peut pas être une vraie école, professeur.
Vous avez raison.
Enfin.
Il manque le 9. Mais regardez plutôt au-dessus du tableau. Il est écrit École École des Carmélites.
Carmélites? C'est bizarre, non?
Quoi?
Dans Carmélite, il y a lite.
D'après vous, nous serions donc en présence de l'école d'élite, et non de l'élite de l'école.
Et on atteste ces paroles écrites au tableau. Nous sommes les Carmélites, nés sous le signe du triangle.
Enfin, ça m'a pas l'air d'être une chanson.
Rien comprendre, hein.
Mais qui sont ces Carmélites?
On se le demande vraiment, là, je ne sais pas.
Encore un mystère à éclaircir.
Il va falloir que les deux autres feignants se bougent un peu, là. Hein.
Et nous aussi, d'ailleurs. Continuons.
Oh, déjà?
Oui, et attention, Allison. Je crois que nous arrivons sur une pente et ça glisse. Je glisse. Retenez-moi par les pieds.
Donc la glissade est un peu turbulente et nous nous sommes retrouvés dans une position assez inconfortable, hein, professeur, mais qui m'a permis, en tout cas, de prendre la tête de l'expédition.
Oui, nous avons glissé pendant plus d'une minute
en nous... en sortant, heureusement, indemne. Hein. Mais ce qu'il y a de plus difficile avec, c'est la descente. Avec
non,
la descente,
c'est justement la remontée, professeur.
Oui, ça dépend ce qu'on préfère. Hein.
Oui, enfin, une descente d'une minute équivaut à une montée de 10.
Ça dépend. Ça dépend de qui monte, à quelle vitesse, ça dépend si ça glisse, ça dépend s'il y a du vent.
Il n'empêche que nous avons bien mis 30 minutes à remonter au niveau où nous étions.
Oui,
quand
enfin
même, hein.
30 minutes parce que nous glissions continuellement. Donc après je ne sais combien d'allers-retours, hein, nous sommes arrivés au point de départ de la glissade.
Oui, et tout ça pour récupérer nos micros perdus en route, tout ça pour redescendre ensuite, et tout ça sans compter l'ascension qui s'ensuivit jusqu'au dernier étage de la plateforme.
Enfin, peu importe, Alison. Tout effort mérite récompense, et quelle ne fut pas notre découverte.
Ah, il est vrai, professeur. Mais laissons nos auditeurs se rendre compte par la suite de notre reportage au cœur de ces conduits
dans
silencieux.
Cette mystérieuse société des Carmélites.
Ah, oh, j'en peux plus, professeur. On me suffoque dans ces conduits, c'est intenable.
Surtout que nous n'avons pas d'eau. Et Alison, restons concentrés. Nous allons survivre.
Je dois rêver, professeur. J'ai l'impression... Mais oui, j'ai l'impression de voir de l'eau en dessous, là, dans cette cuve, regardez.
Vous êtes sûr, Alison? Mais... À votre place, je me garderai bien de boire cette solution liquide, même par la soif qui nous étreint.
Écoutez, je n'en peux plus, je vais tomber, là.
Eh bien, tombez, là, par cette trappe et prenez-en une lampée, tant pis pour vous.
D'accord, mais vous pensez qu'on peut se permettre de s'aventurer dans cette pièce?
Bon, Alison, vous avez vraiment soif? C'est une question de vie ou de mort, allez-y.
Oh, mais pas la peine de pousser, là. Oh, je suis trempée jusqu'aux cheveux. Bon. C'est pas de l'eau, mais ça se laisse boire quand même, hein.
N'abusez pas trop, Alison.
Oh, écoutez,
on ne sait jamais quels microbes peuvent circuler là-dedans. D'autant que nous ne sommes pas forcément immunisés contre les maladies du futur.
Je prends une dernière gorgée et je m'arrête.
Oh là. Bon, allez, Alison, arrêtez. Et regardez plutôt autour de vous pour chercher des indices sur les Carmélites.
Je ne peux pas te sortir de là sans qu'on se fasse repérer. Je vais mettre du liquide partout, là.
Alison, ne bougez pas. Je vous lance la corde pour vous remonter au moulinet.
Est-ce que vous voulez que je vous ramène de quoi sustenter votre soif, professeur?
Très peu pour moi. Attendez, je me penche.
Très bon, franchement, vous pourrez goûter.
Attendez. Je me penche.
Oui.
Ah, Alison.
Oui.
Quelle horreur.
Quoi?
Derrière vous.
Mais quoi? Mais je ne vois rien. J'ai du liquide plein les yeux. Qu'est-ce qui se passe, là, professeur?
Je vois une sorte de buste avec deux seins et une treilleuse branchée sur. 7 autres seins. Ce qui nous fait donc 9 seins.
Je ne vois pas le rapport.
Eh bien, le breuvage que vous avez bu.
Ouais. Oh, c'est dégueulasse.
Vous aviez pourtant l'air d'apprécier.
Oh, bon, écoutez, j'apprécierais grandement que cela reste entre nous. Je vais tout de même en ramener un peu de ce breuvage-là, puisque ça devrait soigner l'impérateur et Dr. JM. Je leur servirai au petit déjeuner demain matin. On verra bien ce qu'ils en pensent.
Nous couperons au montage, si vous voulez. Bon, reprenons nos esprits. Avant de remonter, il faut que vous m'aidiez. Je ne vois pas bien de là où je suis. Je distingue quelque chose au niveau du sein gauche. C'est très étrange, Alison. Approchez-vous, s'il vous plaît.
Je veux bien nager un peu plus près, mais c'est vraiment pour vous, professeur. Hein. Et vous n'oubliez pas que ça reste entre nous.
Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai coupé l'enregistrement.
Mais c'est un buste de femme, c'est horrible! Elle a l'air d'être maintenue en vie avec un tas de fils, de capteurs branchés sur elle. Elle a un ventre énorme avec 9 seins et...
Et le sein gauche, Alison, le sein gauche.
Et bah c'est un tatouage.
Un tatouage?
Oui, on dirait un triangle.
Avec un œil à l'intérieur?
Et comment savez-vous, professeur?
Alison, c'est pas possible.
Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, professeur?
Bon, l'heure est grave. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise.
Bon, allez-y, jetez-vous. Allez.
Vous ne voyez pas? Ce tatouage ne vous dit rien. Et enfin, Alison!
Non!
Eh oui! Je crois, sans trop vouloir m'avancer, que nous avons retrouvé Carmi.
J'en reviens pas, on avait dit qu'on montait au montage.
Bon, écoutez, Alison, je suis navré. Hein. Je croyais avoir coupé l'enregistrement et finalement il a continué. Je sais pas
si... Oui, c'est ça, une maladresse sans doute. Il n'empêche que maintenant, à cause de vous, l'impérateur et Dr. JM, maintenant savent d'où vient ce petit lait qu'il ne cesse de boire depuis une semaine.
Ouais, enfin, vous auriez pu nous prévenir à l'avance parce que vu tout
non,
ce
mais,
qu'on a
ça
appris.
Ça vous a bien
ragaillardi, situation...
en tout cas, ça vous a fait du bien, on l'a vu.
Et enfin, les bactéries, voilà, c'était risqué quand même ce que vous nous avez fait faire.
Moi, je n'ai pas vu. Enfin, c'était quand même.
C'est pour ça que vous avez toujours ce petit rhume.
Pour mieux fêter le retour de Carmi parmi nous.
Oui, c'était possible. Bah finalement, on est tous un peu frères de lait comme ça maintenant, c'est bien quoi.
Non, toujours pas, merci. Quand je vois vois ce qui est devenu Carmi en l'état de sa progéniture carmélite, je ne préfère pas.
Vous préférez pas boire de. Allez-y, regardez, il en reste un petit peu. Bon. Avis aux auditeurs, hein, pour les anciens fans de Carmi qui auraient bien voulu tâter de la Carmi, nous avons du petit lait en stock car plus personne ici n'a l'air d'en vouloir. Vous êtes sûr ?
Enfin, le temps qu'on revienne, autant des auditeurs, il sera périmé. Hein. Ouais. Bref, la suite.
Allez.
Je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons.
Et si vous pouviez faire un bond en avant dans le temps, où iriez-vous ?
Où sommes-nous ? Quelle époque ?
La Pelle à ta.
Merci pour ce reportage, on a bien compris ce qui s'était passé. Finalement, on n'avait pas eu tous les détails quand vous nous aviez raconté votre petit événement. Je suis bien content qu'on ait entendu cet enregistrement en studio.
Il n'y a pas mort d'homme, hein, docteur. Ouais. Y a pas mort d'homme.
Bon, alors, c'est pas très simple de comprendre tout ce qui se passe. Et heureusement, on a des archives sonores. Pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé dans la vie de la Pelle à Tarte, eh bien, on va replonger dans un enregistrement du passé avec un court enregistrement de Carmi. Si je me trompe pas, qui va dans cet enregistrement
Bah oui, elle révèle en fait ses plans personnels qu'elle menait à bien dans notre dos.
Voilà, c'est là qu'on avait découvert
en fait,
l'antenne.
Elle me le disait directement et puis finalement l'enregistrement est passé et donc vous avez été au courant de ses plans et ça va aider nos auditeurs en fait à comprendre la suite de ce qu'on a vécu sur cette plateforme Carmilite, vous allez voir.
Souvenir.
En fait, j'ai une idée.
Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'il nous faut là.
Attends, donc, je le dis, mais surtout tu le répètes pas aux garçons, ok ?
Mais bien sûr, tu sais, ça restera entre toi et moi. Par contre, faut que tu te dépêches là, parce que je crois que le morceau va bientôt finir et il risque d'en venir d'un moment à l'autre.
En fait, si tu veux, c'est un petit peu délicat.
Bah, tu sais, avec tout ce qu'on a partagé dans ce chemiroploc étroit.
Enfin, même un petit peu trop parfois. Hein.
Bon. Est-ce que tu penses réellement que je peux être choquée par quoi que ce soit ?
Bon, d'accord, je te le dis. Alors, il se trouve que depuis le début de nos voyages temporels, j'ai profité de fait de rencontrer les meilleurs spécimens masculins de chaque époque pour réaliser des prélèvements de sperme.
Pardon ?
Bah, tu sais, toutes ces histoires où on me fait passer pour une fille volage, là. En fait, si je fais ça, c'est pour un but bien précis.
Celui du record de la collection la plus glauque ?
Non, celui de repeupler Tarte Automne en réalisant des êtres parfaits.
Carmi qui dévoilait ses plans futurs. À présent, donc vous êtes bien sur Radio Campus 93.3 dans l'émission L'Appel à Tarte. Nous poursuivons avec la chronique du docteur JM qui va nous raconter comment nous avons pu nous nourrir sur cette plateforme des Carmélites.
Effectivement, comme nous l'avons annoncé au cours de cette émission, l'équipe de L'Appel à Tarte a vécu pendant un mois entier enfermé dans le chemiroploc, lui-même enfermé dans une cheminée d'évacuation d'une ancienne plateforme pétrolière du 30e siècle. Lors de nos précédentes émissions, nous avions fait halte dans des lieux et des âges moins austères. Les contrées que nous avions croisées jusqu'à présent étaient verdoyantes, souvent accueillantes, et toujours propices à des festins, tous plus mémorables les uns que les autres. Alors évidemment, en atterrissant dans cette vieille cheminée poussiéreuse et glingose du futur, et en explorant les alentours, on a vite constaté qu'il n'y avait pas ici un seul centimètre carré de verdure, et qu'il nous faudrait peut-être vivre sur les réserves de nourriture du chemiroploc. Alors Allison commençait déjà à ronchonner sur le rationnement que ça allait impliquer quand nous avons découvert au sous-sol 23 de la plateforme pétrolière l'entrée de la ferme verticale de la construction marine. C'était près de 2 semaines après la sortie nocturne du professeur Schmontz et d'Allison et encore après les premières rencontres d'autochtones que nous allons faites avec l'Imperator et que nous aurons l'occasion de découvrir plus tard au fil de cette émission. À la réflexion, puisqu'il y avait des êtres vivants sur cette plateforme, il était évident qu'ils avaient trouvé un moyen de se nourrir. Mais autant il est facile de faire confiance à l'agriculture extensive du 4e siècle, autant la culture hors sol d'une plateforme rouillée du 30e siècle n'attire pas spécialement les sympathies des foules. Alors la discussion qui a suivi entre les pélotartiens pour savoir si l'on pouvait ou non aller chaparder cette nourriture a été longue et tumultueuse. Alors tous les arguments plus ou moins recevables d'ailleurs ont été évoqués pour essayer de convaincre le camp adverse. L'Imperator et le professeur Schmurz, en fervent défenseur de la nature, des petits oiseaux et des bienfaits des pratiques traditionnelles, n'en démordaient pas. Une patate pousse dans la terre ou ne pousse pas. On utilise le fumier s'il faut pour aider les plantes, on puise éventuellement un peu d'eau au besoin, mais surtout et avant tout, on respecte le rythme de la nature. Ils étaient entêtés et pour une fois avec Allison, nous avons argumenté l'un à côté de l'autre face à l'obscurantisme de nos deux comparses. Et je profite de la liberté que m'offre cette chronique pour développer un peu plus en avant mon argumentaire en espérant que pour une fois, ils ne me couperont pas. Alors tout d'abord, la culture hors sol n'implique pas forcément des pratiques anti-écologiques. Et ça, l'impérateur et le professeur ont eu du mal à le comprendre. Car en maîtrisant la totalité de la chaîne d'alimentation des espèces végétales, on maîtrise aussi ce que l'on rejette ou non dans les nappes phréatiques, ce qui est loin d'être le cas des cultures en champ. J'en profite d'ailleurs ici pour rappeler à nos contradicteurs d'hier que les fertilisants naturels comme le fumier sont loin d'être de laisser indemnes les nappes phréatiques. Hein. Allez d'ailleurs boire un litre d'eau en Bretagne à la fin du XXe siècle pour vous en convaincre, je pense que là on sera tous d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Et puis il y a aussi la question de l'énergie nécessaire au transport et à l'exploitation de superficies agricoles gigantesques loin des villes. Et les exploitants humains qui doivent aller y travailler et qui par leur trajet quotidien participent au dégagement du CO2. Bref. Ça marche pas. À ce moment de la discussion, l'impérateur et le professeur Schmutz ont fait montre d'une furieuse mauvaise foi, eux les défenseurs de la diversité biologique, en prétendant que le chasseur et l'agriculteur sont ceux qui entretiennent les campagnes et assurent ainsi la diversité de la faune et de la flore de notre doux 21e siècle. Bon là, cher auditeur, je crois qu'on touche le fond de l'argument du conservateur qui ne veut pas remettre en cause le fonctionnement de la civilisation humaine. Pour l'instant, nous n'avons pas pu sortir de cette plateforme pétrolière, mais j'imagine très bien ce qui doit rester des espèces sauvages au 30e siècle si l'humain a continué sur sa lancée d'expansion et de façonnage des paysages ruraux. Car, sous couverte de régulation des espèces, de contrôle des espèces nuisibles, et pour éviter toute contamination de plants soigneusement sélectionnés, notre civilisation, forte de plusieurs millénaires de domestication des campagnes, a fini par recouvrir la terre entière d'un vaste maillage fade et normalisé, où l'individu libre non contrôlé, qu'il soit végétal ou animal, n'a plus le droit de s'exprimer. Alors, après 2 jours de pleine discussion, où j'avais bien sûr évoqué Dixon des Pommiers et sa ferme verticale comme relocalisation de la production agricole au cœur de la ville, au plus proche des consommateurs. Après 2 jours de discussion, donc, Allison est revenue avec une tomate produite dans la ferme de la plateforme pétrolière. Je crois que c'est son odeur sucrée, subtile et parfumée qui a commencé à convaincre nos deux camarades. La couleur et la texture de la chair, à la fois juteuse et moelleuse, qui a fini de leur faire monter l'eau à la bouche. Et c'est ainsi que depuis une semaine maintenant, nous nous délectons des meilleurs légumes que nous n'ayons jamais eu l'occasion de consommer jusqu'à présent. J'ai même vu l'impérator se relever la nuit pour aller croquer une botte de radis cru. Chers auditeurs du XXIe siècle, vous qui subissez la tomate hors sol et le maïs Monsanto, les céréales limagrins et les courgettes standardisées des supermarchés, ne perdez pas espoir. Bientôt, les passionnés des produits de caractère et des solutions écologiques s'intéresseront, j'en suis sûr, aux alternatives de production locale qui redonneront à la nature ses droits sur les vallées et les plaines de vos régions. En espérant que cela arrive avant qu'il ne soit trop tard.
Où sommes-nous ? Quelle époque ?
Eh bien, si c'est la Terre, nous devons être un siècle, peut-être même plusieurs siècles dans l'avenir.
L'obscurité des âges futurs.
L'appel à Tarte.
Merci JM pour cette chronique, pardon.
Je t'en prie, avec plaisir. Je vous en prie, professeur. Je m'en mets à vous tutoyer tellement je suis tout renversé. Alors, bien après cette petite discussion haute en couleur que j'ai tenté de rappeler à nos souvenirs, eh bien, vous allez à votre tour nous raconter un petit peu comment nous avons découvert le fait que nous étions au 30e siècle.
Exactement.
Cet homme vient du futur. Il a été téléporté ici par la mafia.
Vous pouvez-vous me dire à quelle époque je suis, là ?
Une époque où le sexe fort savait encore se faire respecter.
L'appel à Tarte.
À l'arrivée dans ce nouvel endroit de la planète, enfin de la Terre, porteur d'une civilisation mystérieuse, les Carmélites, plusieurs indices ont retenu mon attention. Je m'interroge souvent sur les chiffres, les lettres, les alphabets, les sonorités, les messages écrits, en les comparant à ceux que j'utilise ou bien encore en les comparant entre eux. Ils me permettent de mieux décrypter le monde qui m'entoure et me donnent des informations pertinentes sur les modes de communication entre humains. Ainsi, la présence à plusieurs reprises de 9 éléments similaires a retenu mon attention, au plus haut point. Tout d'abord, chose incroyable, les 9 saints du buste de Carmi. Ensuite, les 9 livres à la bibliothèque, mais aussi les 9 colonnes sur un bâtiment emblématique de la plateforme. Et surtout, le tableau à l'école, hein, à l'école des Carmélites, indiquant les chiffres de 0 à 8, c'est-à-dire 9 chiffres. 1 de moins qu'en système décimal. Ici, nous ne serions donc plus en base 10, mais en base 9. Fort de cette déduction, me dis-je, cette symbolique autour du 9 mérite d'être examinée à la poule, à la loupe. J'ai donc, comme à mon habitude, mené quelques recherches. Sur place, un journal trouvé dans une poubelle, dans une langue assez incompréhensible, qui, au vu des photos publiées, vouait un culte à Carmi, la déesse aux neuf saints, indiquait en chiffres la date de 4100. Il me fallait au moins une autre source, je décidai de retourner à l'école. Une nuit, je réussis à mettre la main sur une frise chronologique. L'époque la plus récente se trouvait bien aux alentours de 4000, mais la date de la fabrication, par exemple, de la première bombe atomique n'était pas la bonne. Et, malheureusement, pour moi, dans mon schmiroploc, le datateur temporel de déplacement est tombé en panne durant le trajet, et mon seul moyen de pouvoir en déduire l'époque à laquelle nous nous trouvons est de faire une analyse au carbone 14 sur des éléments ou des objets dont on connaît le point de départ, la date de naissance. Sauf que, là où nous sommes, actuellement, c'est très difficile à trouver. Mon schmiroploc personnel, évidemment, mais pour l'instant, il reste introuvable, et il a bien trop voyagé dans le temps pour permettre une analyse précise. Je pensais évidemment à Carmi, enfin à ce qu'il en reste, mais à cause des voyages dans le temps, j'étais face au même problème. Je réfléchis encore et mis au point une nouvelle technique, la datation au Cirbem 28, sur Carmi, accompagnée de la méthode d'autocorrection prenant en compte les différents voyages qu'elle a effectués. Il me fallait donc, à titre de comparaison, un échantillon d'un de mes camarades qui a voyagé avec Carmi durant tout le temps où je n'étais pas avec eux. C'est encore une fois Allison The Road, qui a bien voulu se prêter au jeu en me donnant une mèche de ses cheveux, et qui n'a pas rechigné à m'accompagner à nouveau à l'endroit où repose le buste de Carmi, cette petite escapade lui permettant de se délecter du breuvage remplissant le bassin. Oh. C'est comme une drogue, on se dit que c'est pas bon, puis on... Voilà, c'est... Les drogués... Bref, après plusieurs expériences et nombreux calculs, je suis arrivé à la conclusion que nous étions environ au 30e siècle après Jésus-Christ et non au 42e, c'est-à-dire en 4100. Après quoi, en faisant l'hypothèse que 4100 est en système nonaire, c'est-à-dire en base 9, puisque les carmélites n'ont que 9 chiffres, ce nombre se traduit alors en décimal, donne 2997. Souvenez-vous, chers auditeurs, Carmi nous a quittés, nous a trahis en 333 à Myre. Si l'on additionne chaque chiffre qui compose cette date, 333, on obtient 9. 3 plus 3 plus 3, et si l'on multiplie 333 par 9, on obtient 2997. De toute évidence, les carmélites ont une fascination pour le 9, et je ne sais pas pour quelle raison. En tout état de cause, le point de départ en 333 à Myre en est une des clés. Carmi se propulse depuis 333 pour se retrouver 9 fois plus tard en 2997. Nous en avons désormais la preuve, les carmélites comptent en système nonaire. Alors j'entends déjà d'ici un certain de nos auditeurs qui nous écoutent depuis le 9 mars 2015 et se disent « En plus, nous sommes le 9 mars, c'est un signe !» Non, croyez-moi, ce n'est pas plus un signe qu'un pingouin, et contrairement à ceux qui a précédé, que j'ai pu expliquer, ça c'est une simple coïncidence. Quant à moi, professeur Schmurtz, qui compte en système bibibinaire, je traduis 2997 tout simplement par « Kikiba ».
J'ai commencé à m'adapter à ma machine. Je pouvais m'arrêter une heure ou même une seconde pour regarder. J'avais ainsi la faculté d'assister tout à mon aise au changement d'époque.
Bien, merci professeur d'avoir clarifié pour nous le système nonaire. Et donc nous sommes toujours dans l'année Kikiba, ou l'année 2997 si on le dit en base 10. C'est vrai que c'est beaucoup plus long et fastidieux. Et il est temps maintenant de retrouver le docteur JM et l'impérator qui, eux, se sont donc bien reposés la nuit où nous sommes arrivés, avant de se lever le matin, de prendre leur petit verre de lait qui requinque bien, et de partir, eux, à l'aventure, plutôt à l'extérieur de la plateforme, pour essayer de découvrir un peu ce qui s'y passe. On écoute ça tout de suite.
Alors la première exploration de vous, Allison, et puis professeur Schmont, était nocturne. Alors, plus raisonnable, nous avons attendu le petit matin pour sortir.
Oui, enfin, nous avons surtout attendu que monsieur ait fini sa nuit.
Wow, ça va. Plus raisonnable, je disais, parce que non seulement nous avons attendu le matin pour lancer notre exploration, mais en plus, nous ne sommes pas sortis nous-mêmes.
Non, on a fait tout ça depuis un superbe pupitre de commande, plein de boutons et d'écrans de contrôle.
Alors pour réduire à 0,0023% ou plus ou moins 5 bons 10 millièmes, le risque, en fait si on voulait réduire les risques, nous avons préféré envoyer le pelleux le moins précieux.
Et non, pour une fois, ce n'est pas de toi Allison dont nous parlons.
Non, effectivement, il s'agissait du Schmirozodrome Le Schmurfsodrome 683. Je suis perdu entre tous les Schmurfs.
Oui, c'est lui qui est fait avec des chutes de carton d'emballage Amazon.
Ouais, enfin, il n'est pas très rapide parce qu'il se déplace à l'aide d'un bras articulé en papier bulle et qu'il est un peu bruyant, pour les mêmes raisons d'ailleurs.
Mais vu le bourdonnement incessant qui nous entourait depuis notre arrivée, vous l'avez d'ailleurs sans doute entendu, chers auditeurs, je ne pense pas que les autochtones auraient pu le repérer.
On vous propose donc d'écouter l'enregistrement de notre première exploration.
Enfin, plus exactement, l'enregistrement de nos réactions face à l'écran de contrôle du Schmurfsodrome 683.
Oui, car vous devez déjà le savoir, mais ce modèle un petit peu, disons, rétrograde ne possède pas de membrane acoustique.
Allez, c'est parti!
Ça y est, il sort de la trappe arrière de la cheminée.
Je peux pas monter le son, j'ai du mal à entendre.
C'est le Schmurfsodrome en carton, Imperator. Il a pas de micro.
Ah mince. Voilà, c'était donc notre premier extrait sonore de la formidable aventure que nous avons vécue ce matin-là. Et on vous passe les détails.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de couloirs, de portes, de sas, de conduits, de corridors, de trappes, de toboggans, de wagonnets et de halls déserts.
Et c'est seulement après 3h30...
3h32, soyons précis, mon cher Imperator. La sonnerie de toutes les minutes de l'horloge atomique du Schmiroplock était là pour nous le rappeler.
Bref, je disais donc, ce n'est qu'après 3h32
Merci.
Que nous avons fait une découverte hallucinante.
Tu veux parler des champignons ?
Mais non, les champignons, tu pourras en parler quand tu veux, dans ta chronique.
Oh, okay. Si tu veux sans doute parler à nos auditeurs des tenues peut-être plutôt du 30e siècle ?
Bah, difficile de les rater, effectivement. Mais avant, je voulais parler de ce qu'il y avait dans ces tenues.
Ah, comment, mais il y avait quoi dans ces tenues ?
Bah, des personnes.
Ah.
Il y avait des personnes dedans.
Oui, d'accord, je vois.
On n'a pas vu des tenues flotter dans l'air comme ça par magie.
Ok. Si tu veux dire... D'ailleurs, en gros, tu veux dire quoi à ce sujet qui pourrait intéresser nos auditeurs un sens soit peu au moment de cette histoire
Eh bien, qu'ils portaient des tenues.
Ok, super. Ouais, bon. Je suis désolé, j'ai pris quelques raccourcis tout à l'heure. Recommence.
Soyons précis, docteur JM. Vous aimez assez me le rappeler sans cesse.
Enfin bon, un peu de bon sens, Imperator. Ils avaient quelque chose de significativement intéressant, ces autochtones, pour qu'on en parle ? Non, il me semble, c'était des humains, avec deux bras, deux jambes, un squelette en parfait état, depuis le métacarpe avant-gauche jusqu'alors fibula péronée.
Ah, pourtant, on pourrait en dire pas mal de choses, hein, au sujet de ces tristes descendants de la race humaine.
Ouais, nous y reviendrons plus tard. La première chose à dire, c'est qu'ils portaient une tenue très particulière.
Une sorte de combinaison radiologique, on pourrait dire.
Ouais. Soyons précis, Imperator. Une combinaison à imagerie magnétique dynamique, puisque les capteurs du Schmurfsodrome n'ont rien détecté sur les fréquences radioactives.
Ni sur le 93.3, d'ailleurs.
Ouais. Quelle netteté de l'image, quelle précision dans la définition. On a vu quelques spécimens féminins au squelette vachement bien balancé. Quel chien.
Enfin, docteur, un peu de tenue tout de même. Je veux bien qu'on soit précis, mais il y a des limites.
Ah, toutes ces prouesses technologiques et ces belles imageries, je trouve ça formidable.
Bref, on a donc conclu que pour sortir à notre tour, il faudrait trouver des tenues conformes à la mode du moment.
Oui, pour sortir de notre cheminée, nous avons décidé de faire un détour par la garde-robe du professeur Schmurfs.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, un jour, il faudra qu'on vous raconte toutes les pièces qu'il y a dans ce Schmurfsodrome. Ça ferait une belle idée de chronique, ça, non ? Entre deux intervalles
musicaux.
Ouais, enfin
bref, oui, ok. On a trouvé pas mal de costumes, en fait, en tout genre.
Mais surtout les fameux costumes que le professeur a achetés pour la fête des morts au Mexique, que nous avons couverts dans l'émission du 17 novembre 2043, souvenez-vous.
Mais on n'est jamais allé en 2043.
Mais peut-être qu'on fut allé en 2043 dans un futur antérieur.
Ouais, bref, on a choisi deux costumes de squelettes et on a préparé des tenues de citrouille et de vieilles sorcières pour nos camarades lorsqu'ils se réveilleraient. Et on est sorti du Schmurfsodrome, gaillardement.
Enfin, tu te tenais bien loin derrière quand je suis sorti en premier.
Oui, bref. Écoutons le deuxième enregistrement.
Allez, on écoute. Bah, tu viens ou quoi ?
J'arrive ! Bon, on monte ou on descend ? J'ai vu le mal de mer que j'ai en ce moment, je parierais bien qu'on est sur un bateau, en fait.
On n'a qu'à suivre les bulles éclatées ?
Oui, enfin, on a bien vu que le Schmurfsodrome avait fini dans une impasse, on va pas refaire la même.
Hein. Bah, il suffit de bifurquer au dernier croisement.
Ok, allons-y, je te suis, passe devant.
Allez, dépêche-toi, c'est pas la peine de te cacher derrière chaque tuyau qu'on trouve.
Pff, moi j'ai pas envie d'y aller là-bas. Pourquoi on a pas encore envoyé notre Schmurfsodrome ? Le 732 par exemple.
Oui, enfin, tu as surtout les chocottes.
Non, j'ai pas peur.
Au prochain virage, on devrait tomber sur le groupe de femmes qu'on a repéré à l'écran tout à l'heure.
Tu crois que mon squelette sera à la hauteur?
Bah ça dépend, tu mesures combien.
Non mais, tu crois qu'ils vont se laisser avoir, en fait?
Bah on va le savoir tout de suite.
Bon, en fait, ça s'est plutôt bien passé.
Tu as quand même crié dès qu'on est tombé sur un groupe de personnes.
Ouais, enfin, t'as déjà croisé des squelettes qui traversent un couloir en discutant de la pluie du beau temps, toi?
En tout cas, on s'est plutôt bien intégrés. On a même fait sensation.
Il faut dire en fait qu'ils avaient jamais vu de squelettes aussi bien définis que les nôtres. Ils se demandaient si on n'était pas des prototypes de la nouvelle génération de combinaisons iOS.
C'est donc en charmante compagnie que nous avons voyagé vers le pont supérieur où nous avons pu retrouver l'air libre.
Regardez, Imperator, je m'étais presque pas trompé.
Bah comment ça?
Bah je pensais que nous étions sur un bateau.
Et alors?
Bah c'est une plateforme pétrolière que nous avons sous les pieds, ça se voit. Je la reconnais. Je l'ai vue dans la même, mais en plus petit, dans le deuxième opus d'Automobile.
Bon, en tout cas, c'est une belle dalle métallique qu'on a là. Hein. Pas un chat à l'horizon. Juste une sculpture, là, au fond. On se croirait sur la place de Jaude.
Ouais, manque plus que les fontaines et la grande roue, quoi.
Allons voir la statue de Vercingétorix, là-bas.
Ok. Alors, bon, vous l'avez entendu à ce reportage, en s'approchant de la statue, qui était celle... au centre de la plateforme de Jaude, on avait un doute.
Et plus on approchait, plus ce doute était grand. Un peu comme la statue d'ailleurs.
Et notre sentiment s'est confirmé en arrivant au piédestal.
Nous étions face à l'épave du Schmiroplock. Le Schmiroplock de place avec Jean Talus.
Et qui brillait comme au premier jour malgré les siècles passés, et sans doute grâce au traitement anti-temporo-schmours que le professeur ne manque pas d'appliquer à tout ce qui voyage dans le temps. Nous y compris d'ailleurs.
Brillant comme des sous-neufs, nous avions devant nous le Schmiroplock avec lequel Carmi s'était enfui.
Démodé, pas démodé, vous savez, hein. La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque?
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'appel à tarte sur le 93.3 Radio Campus Clermont-Ferrand. Alors, c'est à mon tour de raconter un petit peu ce que j'ai vécu dans ce périple. Alors, à notre arrivée sur cette plateforme, le professeur et Allison, pressés d'être les premiers à percer les secrets qui nous entouraient, sont partis pour une exploration rapide des lieux. Mais lors de cette petite promenade, ils ont omis de s'intéresser à certains éléments primordiaux. En effet, souvenez-vous, à un moment de leur reportage, ils ont entreaperçu une pièce avec des livres, mais sont tout de suite passés à autre chose. Erreur monumentale que fort heureusement j'ai rattrapée de justesse. En suivant les indications du professeur et d'Allison, j'ai aisément pu retrouver l'endroit en question. Il s'agit en fait de l'une des nombreuses bibliothèques présentes sur cette plateforme. Et l'étude approfondie des ouvrages qu'elle recueille m'a permis d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de ce lieu et de son peuple. Alors, cette bibliothèque n'est pas, chers auditeurs, aussi foisonnante de nombre d'ouvrages que celle que vous pouvez trouver à votre époque, non. Il s'agit plus de réunir le plus d'informations possible en le moins de pages possible. Ainsi, l'essentiel du savoir et de l'histoire des Carmélites se trouve résumé en 3 ouvrages. Et la bibliothèque dans laquelle je me trouvais comportait 3 exemplaires de chacun, disposés sur 3 tables, de sorte que 3 personnes puissent consulter l'ensemble du savoir en même temps. Alors j'ai d'ailleurs appris que ce nombre de tables peut varier d'une bibliothèque à l'autre de manière concentrique. Ça reste un multiple de 9, mais le nombre augmente plus on s'éloigne du centre de la plateforme. Enfin, je ne sais pas si vous suivez toujours. Ainsi donc, les bibliothèques permettent d'accueillir plus de lecteurs en périphérie qu'au centre de la plateforme. Alors ce que l'on trouve dans ces ouvrages est assez varié et plutôt désordonné, on peut dire. Le premier est un ouvrage d'illustration, enfin plutôt de plan. On y découvre comment fabriquer tout un tas de machines assez farfelues, dans un style qui me rappelle assez les inventions de notre cher professeur. Le deuxième ouvrage est un recueil de pensées et à trait humoristique. J'y ai trouvé bon nombre de jeux de mots, de blagues et anecdotes qui m'ont semblé aussi très familières, on pourrait dire. Le troisième ouvrage est de loin le plus intéressant, mais aussi le moins organisé. On y trouve pêle-mêle tout un tas de notes sur des faits historiques n'ayant aucun rapport les uns avec les autres. Par exemple, saviez-vous que le poids de la première pierre de la muraille de Chine est très précisément de 2187 kg ? Notez bien ceci, ça pourrait nous servir dans la suite de cette émission. On trouve surtout dans cet ouvrage l'histoire de la civilisation des Carmélites. Il semble que les premiers Carmélites soient eux aussi, en quelque sorte, des voyageurs temporels, mais ils n'en ont jamais eu conscience. En effet, cette civilisation est apparue après la chute sur une ancienne plateforme pétrolière, celle d'où nous émettons aujourd'hui, eh bien, de ce qu'ils appellent le Grand Schmoutem. Il s'agit en fait du schmiroplog du professeur, celui-là même que Carmi nous avait dérobé. Le choc de l'acquisition a été si violent que le schmiroplog s'est trouvé inutilisable dans ses fonctions premières. Il n'était donc plus capable de voyager dans le temps. À son bord, Carmi avait entrepris, pendant son voyage temporel, de réaliser des croisements génétiques entre elle-même et les plus grands savants dont elle avait prélevé la semence, créant ainsi des êtres atemporels, rendus stériles, pour éviter tout croisement non voulu. Alors, je vous passe les détails, mais à un certain moment, il semblerait que les êtres génétiquement créés se soient rebellés. Et à leur tête, 9 d'entre eux se sont dressés contre leur génocréatrice, ne supportant plus l'idée que ce soit elle qui décide du savant mélange des gènes qui donnerait naissance à tous les membres de leur civilisation. Ils ont tout de même pris soin de conserver les facultés procréatrices de leur génitrice, eux-mêmes étant dans l'incapacité de porter des enfants. Ils ont par ailleurs largement amélioré le processus en réduisant le temps de gestation qui est aujourd'hui de 9 jours et ils continuent leur progrès en la matière. Il semblerait en tout cas que vos craintes, chers professeurs, se trouvent être exactes. Il s'agit donc bien du tronc de Carmi que vous avez trouvé lors de votre escapade avec Allison.
Les voyages dans le temps sont-ils vraiment possibles ?
Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée.
L'appel à Tartre.
Le temps presse, le temps file. Est-ce qu'on a le temps pour une petite
chanson? Je pense qu'on a le temps pour une petite chanson et guère plus. Hein.
Je suis désolée, je vais me dépêcher, je vais la faire rapidement. C'est une chanson que j'ai fait à la suite d'une retransmission d'un spectacle de la Comédie de Clermont-Ferrand qui s'appelle Les Particuliers élémentaires, où j'ai pu entendre à peu près 42 fois le mot vulve pendant 4 heures. Et vous savez qu'ici, chez les Carmélites, il n'y a pas de sexe et la reproduction est un peu bizarre, comme nous vient de nous le dire l'impérator. Donc là, je vais plutôt vous raconter un fait du quotidien. Il était une société d'habitants dégénérés. Il était une sorte de secte qui s'appelait les Carmélites, qui ne savaient pas montrer leur rite. Leur plateforme est sur la mer. Chaque jour, ils sont inondés. Il y a tous à dos, mais au milieu, heureusement, il y a une valve qu'il a fallu s'ouvrir.
s'ouvrir dardard. Au moment de la soulever, malheur, elle était grippée. Les carmélites ont écopé en s'aidant d'un sodomila pour les événements très urgents. Ce travail est éprouvant, il peine, hisse le saut très haut. J'ai même vu un carmélite, il m'a dit: je fais l'action comme je peux, c'est difficile. La morale de cette chanson a bien moins d'intérêt que la tonalité choisie, car je l'ai écrite en do slovaque, je veux dire que lutte est russe.
Merci.
Merci Alison, cette chanson.
Je vous en prie.
Je crois que le temps presse.
Qu'on avance et qu'on parle un peu des recherches de l'Impérator dans la bibliothèque, parce qu'elles ont été quand même assez fructueuses.
Et oui, n'est-ce pas? Mais je pense malheureusement qu'on n'aura pas le temps de traiter ce sujet-là aujourd'hui.
D'accord.
C'est pas grave, on le redécale dans un mois. Nous, on le rediffuse dans un mois.
Nous, on va continuer d'enregistrer notre émission et dans un mois, vous pourrez écouter la suite de ce périple sur la plateforme.
Ou ailleurs. Voilà,
bah, si jamais
on s'en va, parce que là, on a déjà passé un mois ici. Bon.
Bon, moi, chers auditeurs, vous êtes bien sur le 93.3 Radio Campus et tout de suite
attaqués
bien...
par une armée de carmélites. Nous allons être obligés de rendre l'antenne. Il faut que nous déployions nos armes de riposte. Je m'en vais dans la pièce d'offensive imminente du Schmiroplock. À bientôt.
Salut.
À dans un mois, chers auditeurs.
Si seulement j'avais une machine à remonter le temps.
5 savants tartiens
sont égarés au cœur du temps dans le labyrinthe des époques passées et futures au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le
Schmiroplock. Karma, Alice on the Road, Dr. JM,
Professeur Schmurz et l'Impérator.
Ils sont lancés dans une aventure fantastique quelque part dans le domaine mystérieux du temps.
La machine fonctionne de la façon suivante. Voici le siège où se tiendra le futur voyageur dans le temps. Juste en face de lui, il y a le levier qui contrôle le mouvement. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Plus forte est la pression, plus vite la machine se déplacera dans le temps.
Faites chauffer la pâte.
Treize ans s'étaient écoulés. 14, 15, 16 ans. Et puis soudain, la lumière s'éteignit. Qu'était-il arrivé?
C'est l'heure de la pelle à tarte.